Amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette émission et merci de nous rejoindre en ce dimanche matin. Il y a quelques semaines, l'enseignement catholique recevait un invité de marque, le père Jean-Marie Petitclerc. Avant son départ, il a bien voulu nous livrer quelques impressions. Père, bonjour.
Bonjour.
Durant votre séjour ici, vous avez donné des conférences, vous avez rencontré de nombreux enseignants. Et le grand public a eu aussi des échos de votre séjour par les médias. Toutefois, il ne me paraît pas inutile pour nos auditeurs proches et lointains de rappeler ce qui vous a amené ici et plus largement ce qui est l'essentiel de votre action, de votre vie en tant que prêtre, éducateur et sociologue.
J'ai été invité donc par la direction diocésaine de l'enseignement catholique pour rencontrer des jeunes, rencontrer des équipes enseignantes, rencontrer des chefs d'établissement et travailler avec eux sur les questions pédagogiques. Alors moi-même, donc je suis salésien de Don Bosco, je suis éducateur spécialisé de métier, donc je dirige actuellement une association, le Val d'Oco, qui a été fondée à Argenteuil, dans un quartier problématique de la banlieue parisienne, qui avait été traumatisé par la violence des émeutes urbaines du début des années 90. Et cette association est née de la rencontre entre un collectif d'habitants inquiets pour le devenir de leurs enfants dans le contexte d'une cité marquée par une telle violence, et des salésiens de Don Bosco désireux de réexpérimenter le modèle de leur fondateur dans la réalité contemporaine de la banlieue. Le Val d'Oco s'est développé à Argenteuil, puis a ouvert une antenne en 2005 sur le Grand Lyon, où je demeure actuellement. Et à Lyon, donc, le Val d'Oco gère des équipes d'éducateurs de rue qui vont à la rencontre des jeunes dans des quartiers défavorisés. L'association gère aussi un atelier chantier d'insertion, première expérience d'insertion professionnelle pour des jeunes qui ont beaucoup de difficultés pour accéder à l'emploi, et un foyer d'adolescents en grande difficulté, un foyer habilité par le ministère de la Justice, qui accueille des adolescents, donc confiés par les magistrats pour enfants, soit au titre de la protection de l'enfance en danger, soit au titre de la réponse à la délinquance des mineurs.
Alors même si nous sommes aux antipodes de chez vous, la société et surtout la jeunesse calédonienne a évidemment pas mal de points communs avec celle de métropole. Y avez-vous cependant décelé quelques différences ?
Oui, bien sûr, les jeunes passent du rivage de l'enfance à la rive de l'âge adulte, et ceci est vrai pour les jeunes du monde entier. Les jeunes vivent aujourd'hui dans un contexte d'une société de plus en plus mondialisée, avec une percée des nouveaux outils technologiques de l'information, et tous, effectivement, maîtrisent ces outils. La différence, je crois, au niveau de nos jeunes de Nouvelle-Calédonie, réside plutôt dans l'héritage, dans les racines, dans les valeurs. Et il est vrai que ce qui m'a marqué en rencontrant ces jeunes, c'est que beaucoup me semblaient parfois un peu perdus entre les valeurs de la société traditionnelle et puis ces valeurs de la modernité. Et ce qui m'est apparu de manière très claire, c'est que les jeunes sont vraiment en quête d'adultes qui puissent les aider à essayer de faire une synthèse. C'est-à-dire qu'ils sont attachés aux valeurs de la culture traditionnelle. Il reproche d'ailleurs aux adultes de parfois contribuer à la dissolution de ces valeurs. Mais ils sont aussi attirés, fascinés par la modernité, tous ces nouveaux outils qui leur permettent de communiquer entre eux, de découvrir le monde. Et ce qu'ils voudraient, en tout cas c'est ce que j'ai senti dans leurs propos, c'est de pouvoir être à la fois fidèles à leurs valeurs et d'être ouvert à la modernité. Or, de temps en temps, ils rencontrent des adultes qui, par fidélité aux valeurs traditionnelles, refusent la modernité, et d'autres adultes qui s'ouvrent à la modernité et sont en train de renier leur culture traditionnelle. Donc je crois vraiment qu'il y a un besoin chez ces jeunes calédoniens de rencontrer des adultes capables de les aider à faire l'unité. Ils sont à la fois ancrés dans ces valeurs traditionnelles et ils sont à la fois ouverts à cette modernité.
Alors parmi les personnes que vous avez rencontrées, il y avait des enseignants et des parents. Et je suppose que vous avez discuté avec eux de cette situation. Et quel est le message que vous pouvez leur laisser ?
Je voudrais leur dire combien j'étais heureux d'être accueilli par ses enseignants, par ses parents. Vous savez, quand on vient de métropole et qu'on s'adresse à un peuple qui vit aux antipodes, on a deux craintes. Hein. La première, c'est d'avoir un discours trop décalé par rapport à la réalité de ceux qui nous accueillent. Hein. Et puis, la deuxième, c'est que le propos soit perçu comme étant quelque part critique. Or, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. J'ai vraiment rencontré des équipes éducatives tout à fait ouvertes à cette parole qui est mienne, tout à fait prêtes à se remettre en cause, tout à fait volontaires pour avancer. Tout le monde se rend bien compte qu'il s'agit d'éduquer les jeunes à entrer dans la Nouvelle-Calédonie, non pas d'hier, mais de demain, et qu'il s'agit d'un effort pour tous de pouvoir s'adapter au contexte d'aujourd'hui, aux jeunes d'aujourd'hui, pour pouvoir les aider à véritablement entrer de plein pied dans cette société des adultes. Et j'ai rencontré aussi des parents, parfois un peu en quête de repères, tant il est difficile pour eux de faire face à tous ces nouveaux questionnements qui surgissent de la confrontation de leurs enfants à cette culture de la modernité, combien quelques parents sont un peu déboussolés et combien il est difficile pour eux parfois de se sentir critiqués. J'entendais qu'un programme sur la Nouvelle-Calédonie était intitulé « Rappel à la parentalité ». Moi, personnellement, je me dis non, il faut monter des programmes de soutien à la parentalité, d'écoute, d'appui, d'accompagnement des parents. Je crois que tous les parents veulent le meilleur pour leur enfant. La question, c'est comment y arriver dans le contexte d'une société qui change, d'une société en mutation, avec des jeunes qui posent des questions qui parfois les désarçonnent parce que eux-mêmes ne se les posaient pas lorsqu'ils étaient enfants ou adolescents.
Oui, c'est cela. Est-ce que vous avez perçu que, justement, vous parliez de société en mutation? Est-ce que vous trouvez que ça va particulièrement vite en Nouvelle-Calédonie, si on pense que, par exemple, notre Église est jeune, elle a un peu plus de 150 ans, que cette société a dû aller très vite dans l'adaptation au monde moderne?
Oui, je pense surtout à ces jeunes Kanaks que j'ai rencontrés, qui sont ancrés dans leur vie de tribu au sein de la brousse et qui sont envoyés pour faire leurs études à Nouméa, qui découvrent de manière très rapide toutes les tentations de la ville moderne sans du tout y avoir été préparés. C'est un véritable choc auquel il nous faut, nous adultes, être attentifs de manière à pouvoir les accompagner. Et il est vrai que la Calédonie progresse à très grande vitesse par rapport à des sociétés européennes qui, elles, ont connu un développement plus lent, qui ont beaucoup plus de temps pour s'adapter à la modernité, et combien notre jeunesse prend plein fouet toutes ces innovations technologiques qui les fascinent par rapport à cette culture traditionnelle dans laquelle leurs parents et leurs grands-parents ont été élevés.
Alors, avant de terminer, est-ce que vous pouvez nous donner une petite anecdote ou un point particulier qui vous a frappé pendant votre séjour ici, que ce soit en brousse ou vers Nouméa?
Vous savez, moi, ce qui me frappe toujours, c'est de rencontrer un adolescent de 15 ans, de 16 ans, qui est fait pour vivre et qui a dans sa tête des idées suicidaires. Combien j'ai découvert que le problème du suicide des jeunes était un problème grave en Nouvelle-Calédonie, et combien j'aime dire que le suicide de l'adolescent, c'est différent du suicide de la personne âgée, qui pense que l'avenir ne vaut pas d'être vécu parce que c'est le passé qui est intéressant, ou le suicide philosophique de l'adulte qui pense que la vie ne vaut pas d'être vécue puisqu'il y a la mort au bout. Le suicide de l'adolescent, c'est beaucoup plus un formidable appel à vivre autrement. Et je veux dire, le suicide de l'adolescent est toujours à la rencontre d'un sentiment de souffrance lié au caractère intolérable de la situation et d'un sentiment d'impuissance à pouvoir la faire bouger. Et combien il me semble qu'il nous faut, nous, adultes, écouter ce cri de ces adolescents qui devraient être habités par la force de vie, pensent à mourir, combien il nous faut savoir les accompagner et leur dire que, quelle que soit la noirceur d'une situation, il y a toujours un petit chemin de lumière à pouvoir tracer.
Eh bien, voilà un message plein d'espoir. Père, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le père Petit-Clerc et que vous êtes venu rendre visite aux enseignants et au peuple de Nouvelle-Calédonie. Merci infiniment. Et merci à vous, amis auditeurs. Nous serons heureux de vous retrouver dimanche prochain.